quartier
de vie.
Une émission proposée par
Résonance Sonore.
La bibliothèque vivante, c'est ma première participation. Je n'ai aucune idée, juste j'ai rencontré l'association. Ils m'ont expliqué qu'ils organisent des rencontres où beaucoup de personnes peuvent venir raconter leurs histoires de vie et faire des connaissances, et si ça m'intéressait. Je les ai dit, bien sûr, ça m'intéressait parce que actuellement, moi, je vis à Toulouse ici, mais il y a la solitude, je vis seul. Donc, faire des connaissances, rencontrer des personnes, échanger, connaître les histoires des autres et faire connaître mon histoire, ça me va droit au cœur.
Ici, on a 9 habitants des quartiers populaires. Donc là, aujourd'hui, ça va être plutôt Rennerie, plutôt Mireille. Et on a Marion, juste, qui habite à Empalo, parce qu'elle ne voulait pas le faire à Empalo. Parce que la bibliothèque vivante, tu dois raconter ton histoire de vie intime dans le quartier où tu habites et dans l'espace public. Donc tu as des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise de voir qu'il y a peut-être des voisins à qui ils ne parlent pas forcément de leur vie.
Et donc, il y a un texte qui fait cette taille à chaque fois.
Voilà, c'est-à-dire que nous, du coup, ils acceptent d'être livre vivant. Il y a un seul critère, c'est de vivre dans un quartier prioritaire. Mmh. Et ensuite, on les invite à boire un café pour... comme maintenant, en fait, on recrée, on va dans un café et là, on leur pose plein de questions pour essayer de connaître la personne. Donc, on prend plein de notes et une fois qu'on a pris les 10 pages de notes, l'exercice, c'est de réussir à résumer en 1/4 de couverture pour que toi, les lecteurs qui viennent, vont pouvoir se faire une idée de, voilà, est-ce que j'ai envie de passer 20 minutes avec Khaled, avec Marion, avec Loan, en sachant que tu peux maximum en emprunter que 6, puisque la bibliothèque vivante, ça dure 2 heures, et c'est toutes les 20 minutes que tu peux emprunter quelqu'un. Donc voilà, là, c'est le catalogue avec les 9 histoires. Tu peux le consulter ici, mais tu l'as aussi en grand sur la grille. Et quand tu as fait ton choix, tu vas venir ici pour t'inscrire, parce que ça marche comme dans une bibliothèque classique. Tu as un petit règlement à respecter. Il est interdit de corner les pages du livre. Il est interdit de raturer le livre, de le tacher avec de la nourriture. Et tu dois rendre le livre dans l'état physique et psychologique dans lequel il était au moment de l'emprunt.
Qui c'est qui lance le parcours ? C'est moi ou c'est...
C'est une discussion après. Vous pouvez lui poser des questions sur sa vie, vous en posez sur la voie.
C'est un peu privé, non ?
Ça peut être très général, très privé, ça dépend de la discussion. Voilà, si vous voulez regarder, je vous laisse. Et si vous voulez, après, il faut juste aller s'inscrire ici.
Merci.
Avec plaisir.
J'avais juste envie de parler dans l'espoir d'avoir... plus de courage et de force.
C'est plutôt l'association qui m'a sollicité pour être là aujourd'hui. J'ai l'impression que ma vie n'est pas forcément intéressante plus que ça. Donc voilà.
Je suis venue à Toulouse en fait pour mettre pas tirer un trait sur le passé. En fait, je suis une personne à mobilité réduite. J'ai eu un accident de la route en 2008. C'est quelqu'un qui avait bu qui m'a renversée. Et tout, malheureusement, j'ai été amputée. Et je me suis battue pour rester en vie pour mon fils de 2 ans et demi. Je me suis dit qu'il ne pouvait pas vivre sans maman et tout. Et quand je me suis refaite, malheureusement, j'ai perdu mon grand frère 3 ans après, qui a eu le même accident que moi en venant me voir. Et là, je me suis dit non, là, je ne peux plus et tout. J'avais l'impression de revivre cet accident une deuxième fois, sauf que là, j'étais morte en fait. Et c'est là que je décide de partir et de venir vivre à Toulouse.
Moi, je suis Thiermon, je viens de la Guinée-Conakry. Je suis né en 91 dans la province de Boké. J'ai fait l'école primaire jusqu'à avoir mon baccalauréat. Puis je suis arrivé à Conakry où j'ai fait l'université. J'ai obtenu une licence professionnelle en administration système et réseau. Et après ça, j'ai intégré le monde professionnel, genre à la recherche de l'emploi. Chose qui n'a pas été facile parce que, voilà, en Guinée, si tu n'as pas les bras longs, c'est pas facile de décrocher un emploi à plus forte raison qu'un job. Donc, chose qui n'a pas été facile, mais je me suis battu jusqu'à j'ai eu des stages, puis des contrats. Et dans ça, j'avais déjà intégré des partis politiques. Dans ce programme des partis politiques, chose que je ne savais pas trop, j'ai dû participer à une manifestation où les choses se sont déroulées autrement.
C'est une enfance difficile que j'ai passée au Cameroun, où mes parents étaient extrêmement pauvres. Et plus tard, je me suis retrouvée au village pendant quelques années. C'était encore plus difficile. Il fallait faire des kilomètres à pied pour aller à l'école, revenir, aller chercher de quoi manger dans les champs. Donc voilà. Mon papa, il touchait très peu. Il avait 30 000 francs le mois, ce qui équivaut à 50 euros. Donc, c'était pas facile. Je me suis retrouvée à 16 ans à travailler dans un restaurant. Je me suis beaucoup inspirée de mon employeur, qui était une femme très dynamique. Voilà.
Eh bien, bonjour, Loane, enchantée.
Bonjour, Loane. Raconte-moi. Donc ça m'a fait rire parce que tout à l'heure, quand je me suis inscrite, j'ai beaucoup aimé l'expression « tu es empruntée ».
Ce qui est important pour moi, c'est de démocratiser mon choix de parentalité parce que, voilà, on est encore quand même très normé papa-maman et pour moi, c'est important d'en parler. Je n'ai pas envie d'avoir des retours en mode « mais t'es jeune, t'aurais pu attendre ». Non, une famille, c'est papa-maman. Enfin, voilà, des choses très stéréotypées et très malveillantes. Et au final, là, les 3-4 personnes avec qui j'ai discuté, elles ont été très bienveillantes. Le mot qui ressort beaucoup, c'est le courage. Alors, c'est quelque chose que j'avais du mal à accepter déjà dans mon parcours de PMA et que j'accepte de plus en plus aujourd'hui en me disant... moi, je trouve pas forcément ça du courage, mais c'est un parcours qui est pas simple et il faut beaucoup de persévérance et de ténacité pour le mener jusqu'au bout. Enfin, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, que ça ne dure que 2 ans et demi. Il y en a, elles en ont pour des dizaines d'années, donc voilà. Mais après, le courage, je pense qu'il y a d'autres témoignages de mamans et de femmes en particulier extrêmement courageuses. Et enfin, voilà, moi, je suis très admirative quand je lis leur résumé de leur parcours et tout ça.
J'étais en Martinique. En Martinique, l'île de la Martinique, les cocotiers et tout, les plages. Et j'ai laissé tout ça pour venir ici, à Toulouse. On m'avait déconseillé de venir ici et tout, me disant que je serais mal accueillie. Ben, c'était faux. J'ai été bien accueillie. J'ai rencontré plein de personnes positives, différentes et tout. Et j'ai aimé. Et je suis restée. J'ai même acheté mon chez-moi ici.
Donc il y a une nouvelle constitution qui avait été écrite par le président Alpha Condé qui était en place et pour se pouvoir maintenir pour un troisième mandat au pays, chose qui était interdite par la loi. Donc vu de ça, nous on est sortis pour manifester et dire non stop, tu as violé la constitution. Et souvent, la plupart, je ne sais pas si vous le savez, mais en Guinée, la plupart des manifestations sont réprimées violemment. Il y a des morts, il y a des incarcérations, il y a des disparus, des kidnappings. Donc, nous, on a été pris dans ça et on a fait la prison. Donc, pendant ce moment de prison, moi, je ne savais pas que j'avais une tension artérielle qui me fatiguait. Avec les tortures psychologiques et physiques, des menaces, des stress, ça a nécessité qu'augmenter. Finalement, je suis tombé malade.
Mon papa, il a décidé, quelques temps après, de m'envoyer en mariage avec un monsieur musulman que je ne connaissais pas et je n'avais pas envie parce que moi, je voulais bien continuer mes études. Ça n'a pas été facile. J'ai vécu beaucoup de pires moments. J'étais violentée physiquement, moralement et même sexuellement. Donc ça n'a pas été facile. Je suis finalement partie de mon mariage parce que en 2021, j'avais fait une fausse couche et J'ai été dépistée positif au VIH. J'ai annoncé la nouvelle à mon mari en 2023 parce que j'avais peur. J'ai gardé la nouvelle pour moi. Et en 2023, quand j'ai annoncé à mon mari, il m'a étranglée. Et je me suis enfuie chez ma sœur. Une fois chez ma sœur, celle chez qui je pensais avoir... ma sœur chez qui je pensais avoir du soutien, j'ai été surprise. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle aussi, elle a été surprise et elle a tout de suite changé de regard envers moi. Elle m'a interdit de m'approcher de ses enfants, alors que moi aussi j'ai des enfants, donc ça m'a beaucoup traumatisée.
Premier endroit où j'ai envie que ça se passe bien, c'est dans mon accompagnement de grossesse, où voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis en avant et que je mettrai en avant aussi auprès de la maternité où j'aimerais accoucher, etc., des professionnels et tout ça, où en fait, je n'ai pas envie qu'on me pose sans cesse la question de « il est où le papa ?» alors qu'il n'y a pas de papa, ce sera une copine qui va m'accompagner, c'est voulu, c'est décidé, et ce n'est pas un caprice, c'est un choix mûrement réfléchi, et voilà, je sais que ça ne va pas être simple. Pas besoin qu'on me le répète toutes les 4 minutes, je le sais. De toute façon, devenir parent, c'est pas simple en soi. Moi, j'ai pas forcément choisi la facilité non plus en le faisant toute seule. Mais voilà, c'est OK et ça va aller, quoi.
Mon fils a fait toutes ses écoles à partir de l'âge de 8 ans. Jusqu'à maintenant, il est à Toulouse. Il a été diplômé de différents métiers. Il est resté sur le droit chemin aussi. Maintenant, il a 20 ans. Il est parti de la mécanique et maintenant, il est coiffeur. Et ensuite, j'ai eu ma fille de 6 ans, Kathleen, qui est autiste, qui ne parle pas, mais qui chante très bien.
Il n'y a pas besoin de prévoir un cadeau de Noël, vraiment.
Enfin, j'espère que tout va bien se passer.
Oui, oui, pour l'instant, il va bien. La première échographie, il bougeait très, très bien. Il était au taquet. Enfin, même des fois, un peu trop, la sage-femme avait du mal à prendre les mesures qu'il fallait, tout ça. Donc...
Bon, c'est peut-être un futur footeux alors.
Oui, oui.
Ou une danseuse.
Oui, c'est ça. C'est une copine, elle m'a dit ça, elle m'a dit bah, il danse comme toi. Je dis là, oui, voilà, je peux être ça. En 2023, non, 2022, pardon, en fait, on m'a d'abord diagnostiqué l'endométriose sur un des deux ovaires. Donc, forcément, ça atteint la fertilité. Et en plus de ça, tu as. Plein d'examens médicaux où en fait ça a révélé que j'avais une très faible réserve ovarienne. Une AMH, c'est un peu le taux de fertilité que tu prends par prise de sang qui était très basse déjà à l'époque, qui était à peu près de l'âge d'une femme de 40 ans alors que moi j'en avais 32. Donc du coup, c'est posé la question de préserver, donc faire une congélation des ovocytes. Et comme je venais de me séparer, du coup, la question de faire un bébé toute seule, c'est vite pas présenté aussi parce que, enfin voilà, même si je suis jeune, j'avais pas trop de temps à perdre, on va dire, médicalement parlant, et que c'était OK. Donc du coup, j'ai fait les deux en parallèle. En France, j'ai fait deux essais pendant 2 ans, des FIV, donc c'est des fécondations in vitro, où en fait ça se passe en laboratoire, la fécondation entre l'ovocyte et le spermatozoïde. Les deux n'ont pas marché. Et en fait, en France, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de donneurs. Des donneuses, ben, encore moins, si on en a besoin, parce que ce n'est pas rémunéré et qu'on n'en parle pas. Donc déjà, le délai d'attente à l'attribution d'un don est extrêmement long. Donc du coup, en 2 ans, j'ai pu faire que 2 essais parce que tu as un temps d'attente d'au moins 6-9 mois. Et puis entre-temps, tu dois refaire tous les examens médicaux.
J'ai réussi à aller à l'hôpital. À l'hôpital, le docteur me dit que je souffre d'une insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, c'est une maladie que moi, je n'avais aucune idée parce que je n'ai pas un parent qui a un problème ou bien un ami qui a un problème pareil. Donc, c'était un peu flou pour moi. Je ne savais pas réellement c'est quoi l'insuffisance rénale. Le docteur m'a prescrit quelques produits. Et avec ça, j'ai pris ça. Toujours étant hospitalisé, le monsieur m'a dit, si tu retournes en prison, c'est la catastrophe. Donc ce que tu dois faire, essaye de t'évader. C'est la seule solution. Donc, chose qui n'a pas été facile, j'ai négocié avec mes frères qui ont pu faire un peu partout des relations, tisser des relations pour que je quitte le pays. Donc, j'ai quitté le pays avec ça. Je suis venu au Mali, après le Mali, l'Algérie, l'Algérie en Tunisie. Mais pendant ce temps, les produits qu'on m'avait prescrits m'avaient un peu apaisé. Donc le temps que je suis resté en Tunisie, après quelques temps, la maladie a ressuscité. Ça a recommencé, mais d'une autre manière. Parce que cette fois-ci, il y avait les œdèmes sur mon corps, la figure qui gonflait, le vomissement qui ne s'arrêtait pas. Donc finalement, je me suis rendu à l'hôpital en Tunisie. Le docteur m'a dit que j'ai l'insuffisance rénale, que je dois commencer à faire la dialyse. N'ayant pas d'idée là-dessus, mais je ne savais rien parce que j'étais tellement malade que je ne contrôlais rien.
Là, tu es derrière tes enfants.
Je suis derrière mes enfants.
J'aime les mamans comme ça.
Parce que c'est obligé. C'est nous qu'on a choisi.
On se bat.
De bas. Après, mon mari aussi au travail.
Oui, mais c'est pas pour passer pour lui.
Quelques semaines après, quand je sortais de chez ma sœur, mon mari m'a une fois de plus étranglée et voilà, cette fois il a failli me tuer parce qu'il avait une arme et toute l'information a été répandue dans le quartier et même la ville où je suis née, dans une autre ville. Du coup, quand je sortais, tout le monde m'appelait la SIDN, SIDI, il y a le sida dans la cité. C'était vraiment traumatisant. Donc, voilà.
Non, c'est bon.
Comme ça n'a pas marché en France, on m'a proposé un double don, ça veut dire don de sperme et don d'ovocytes. Et là, c'est un temps d'attente de minimum 2 ans, mais voilà, 2 ans, c'est beaucoup trop long. Donc du coup, j'ai décidé de me diriger vers l'Espagne. Bon, en fait, ça a duré 6 mois. J'ai fait 3 essais, 3 inséminations. Donc là, ça fait comme quand tu as un rapport... avec un homme, voilà, c'est une petite seringue qu'on met dans l'utérus avec le spermatozoïde et au petit bonheur, la chance de le faire à une période qui correspond à peu près au moment où les ovocytes sortent et du coup, au petit bonheur, la chance que ça marche.
Donc, après l'hôpital, on m'a envoyé dans le centre. Ils ont posé des cathéters sur moi. J'ai commencé la dialyse. C'est là-bas que je suis resté pendant quelques mois, mais c'était pas gratuit. Et moi, j'étais étranger dans le pays aussi. J'avais pas trop d'économie pour gérer ça. L'objectif déjà, c'était de traverser la Méditerranée. Mais avec ça aussi, c'est devenu pire. Donc, il fallait vite me sauver pour ne pas arriver aux catastrophes. J'ai réussi à traverser la Méditerranée avec les immigrés qui partent, les clandestins qui passent là-bas. Je suis arrivé en Italie. Et Italie, j'ai fait quelque chose de 7 à 8 mois. Après, je suis arrivé en France en 2024, mai 2024. Actuellement, je suis sur traitement pour le moment, en attendant d'avoir la greffe. Je suis sous traitement de dialyse. Parce que là, le docteur m'a confirmé que le rein ne fonctionne plus. Donc la solution, c'est d'avoir une greffe.
Et du coup, le troisième et dernier essai que j'avais pris a marché. Donc, je suis très, très contente. Et j'allais quand même à ce dernier essai un peu en réfléchissant à la suite. Parce que voilà, en Espagne, du coup, ça a un coût qui est très différent de la France. Puisqu'en France, maintenant, c'est pris en charge à 100%, même s'il reste des choses à notre charge. Mais c'est quand même pris en charge à 100%, sachant que les piqûres qu'on doit se faire, pour donner un ordre d'idée, t'en as à peu près pour 1 000 euros. Donc voilà, donc c'est quand même bien que ça soit pris en charge et qu'on ait la chance, cette chance-là. Donc en Espagne, tu payes l'acte et voilà, on fait un parcours en parallèle en France pour être pris en charge, pour avoir le suivi régulier en France et tu vas en Espagne que pour l'acte.
L'acte du commerce, ouais, ouais, oui.
En tout cas, je suis très content de vous avoir rencontré. Et
bien, moi aussi, j'ai la
bonne pour la. Je suis partie du Cameroun. C'est avec l'aide d'une amie qui est aux États-Unis et mon beau-frère, le mari de ma sœur et elle-même. Je suis partie, je me suis retrouvée en Grèce. Là-bas aussi, ça a été très difficile. J'ai vécu beaucoup de discrimination, le mépris au travail, J'ai eu la protection en Grèce, mais je n'ai pas pu avoir les documents qui allaient me permettre de travailler et m'insérer dans la société. Donc c'était pas facile.
T'as quel âge?
J'ai 11 ans.
11 ans. Et tu fais quoi?
Je fais du judo.
Du judo?
Oui.
Ah ouais.
Et de la mandoline.
Mandoline, c'est quoi?
C'est un instrument italien à 8 cordes. C'est des cordes doublées.
Genre, c'est de la guitare ou...
Non, mon passe-temps, c'est qu'étler, à part mes tableaux, les créations de bijoux, plein de choses. Et comment dire? En fait, moi, j'utilise mes épreuves pour aider les autres à surmonter leurs épreuves et tout. Donc voilà. Donc je me suis rendu compte que des fois, quand les gens ils ne vont pas bien, j'ai toujours les mots qu'il faut par rapport à ce que moi j'ai subi. J'ai toujours les mots qu'il faut ou le geste qu'il faut pour les aider.
Au final, je ne regrette pas du tout. Et voilà, pour l'instant, tout va bien, ils se portent bien. Donc voilà, on espère que ça va continuer.
Je ne peux pas définir parce que je suis encore là. J'ai pas de situation, je suis là, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai fait une demande et j'attends. Je suis logée au CADA, je suis là, j'attends. J'en sais rien. Je sais pas quoi vous dire.
Tu l'as mis en là. Elle est juste là, je l'ai posée sur la.
Voilà. C'est en grosso modo, c'est le résumé de mon histoire, de mon parcours.
C'était une bibliothèque vivante, réalisée par Marie Cheneval. Un grand merci aux personnes qui ont accepté de livrer leur histoire au micro, ainsi qu'aux membres de l'association AVEC, qui œuvre pour créer du lien social, lutter contre les préjugés et permettre à des personnes venues d'horizons différents de pouvoir se rencontrer, échanger et se découvrir.
Quartier
de vie.
Retrouvez son podcast sur
www.resonance-sonore.fr.